Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans un texte que nous connaissons bien, l'Évangile selon Jean, chapitre 3 et verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien que l'Éternel nous fasse réfléchir sur ces paroles que nous connaissons bien.
Deux étudiants de théologie à Washington, aux États-Unis, qui doivent faire un travail sur le culte et l'adoration. Et un des réquisites de cette matière, c'était d'assister à un culte dans une église non-adventiste. Dimanche matin, les deux se préparent. Ils vont dans une des principales églises protestantes dans le centre de Washington, aux États-Unis. Plein d'expectatifs, ils entrent dans l'église et ils se joignent à ceux qui font l'adoration qui étaient déjà assis. Il y a une excellente musique, une chorale avec l'harmonie parfaite entre les voix masculines et les voix féminines, qui crée cette atmosphère d'adoration. Une lecture dramatique de Ésaïe 53 qui nous rappelle l'importance du sacrifice de Jésus nous syntonise encore plus nos pensées pour l'adoration du Seigneur. Et finalement, arrive l'heure de la prédication. C'est un des prédicateurs plus fameux des États-Unis. Il se lève, il se met devant l'assemblée et il crée la surprise pour la plupart de l'assemblée, en tout cas pour ces deux jeunes, quand il dit « Mes amis, ça fait longtemps que nous avons besoin de quelques moments de silence dans cette église. Nous venons d'écouter un texte qui nous rappelle la souffrance de notre Seigneur de notre adoration. Le meilleur que nous pouvons faire, c'est simplement nous maintenir en silence et réfléchir sur ces textes. Que le Saint-Esprit puisse guider nos pensées dans l'adoration de Dieu pendant ces moments de silence. Le prédicateur s'assoit et pendant les 20 minutes suivantes, on écoute un seul bruit dans le sanctuaire. Nous étions seuls avec nos pensées. Jamais je pourrais oublier cette prédication. N'ayez pas peur, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais ça nous fait rappeler que l'adoration, c'est beaucoup plus que louer, que chanter ou qu'écouter un message. C'est faire du silence parfois et laisser que Dieu puisse parler à nos cœurs. Et ma prière pour vous ce matin, c'est que pendant cette prédication, que ce ne soit pas Mario qui parle, qui est un instrument faillible, humain, pécheur, mais que ce soit Dieu qui parle à travers moi et qui puisse parler à chacun d'entre vous, selon vos besoins. Une nouvelle secoue la ville de sa torpeur. Il est arrivé. Un homme qui intrigue tout le monde, un mystère pour beaucoup. Qui est-ce? C'est un nom qui circule depuis la Galilée jusqu'en Judée, à Samarie, à Décapole et en Jérusalem, au-delà du Jourdain, et qu'aujourd'hui, il est arrivé à Jéricho. Qui est-ce? Simplement Jésus de Nazareth. Un nom qui est devenu très fameux, surtout après qu'il a opéré le miracle de la résurrection de Lazare. Il y a même des gens qui disent qu'il se peut que ce soit le Messie, ce nom. Jésus se dirige à Jérusalem pour mourir. C'est son dernier voyage. Alors, Jéricho est un carrefour de plusieurs voies principales. À ce moment-là, où il y a énormément d'étrangers, beaucoup de soldats, il y a beaucoup de commerçants, et quand il y a beaucoup de commerçants, il y a beaucoup d'argent, et quand il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup, ou il y a un intérêt spécial de prendre les impôts de cet argent. Alors, je sais qu'il y a bien besoin d'avoir des personnes qui travaillent dans les impôts, mais ce ne sont pas les gens qu'on aime le plus, surtout qu'on reçoit la lettre de payer les impôts. Ce n'est pas qu'on le fait ça de bon gré. Et dans cette ville, il y avait un homme qui était un collecteur d'impôts, qui était le chef de ceux qui collectaient l'impôt, et qui s'appelait Zachée. Vous avez déjà deviné. Alors, Zachée, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Luc, chapitre 19. Et je vous invite après à suivre avec moi cette histoire que probablement vous aurez déjà écoutée plusieurs fois, mais qui aura toujours une nouvelle signification, toujours quelque chose de nouveau d'apprendre. Zachée, dont le nom signifie exactement ce qu'il n'est pas. Zachée veut dire pur, impeccable. Zachée est tout sauf cela. Zachée est un marginal. Il est très riche, mais il est un marginal. Il est un vautour, il est un traître. Alors, on peut être riche, on peut être puissant, et pourtant, on peut être marginal. Alors, pourquoi il est marginal? Pourquoi est-il exclu de la société? Zachée, en plus de collecteur d'impôts, qu'on n'aime pas beaucoup, travaillait pour l'ennemi, travaillait pour les Romains. Alors, pour qu'on puisse comprendre un peu qu'est-ce que c'était cette profession, les Romains prélevaient l'impôt avant l'année. C'est-à-dire, il y avait des personnes riches qui se portaient devant les Romains et qui payaient par avance les impôts des personnes. Et imaginons, je prends par hasard Daniel. Et en regardant Daniel, je dirais, bon, vu ses possessions, ses richesses, il doit payer 1000 euros. Zachée payait 1000 euros par avance au gouvernement romain. Imaginons que c'est moi, le collecteur d'impôts, je paye les 1000 euros à l'envahisseur, à l'ennemi. Et puis j'arrive près de Daniel et je dis, Daniel, j'ai déjà payé ton impôt, voilà, tu me dois 1500 euros. C'était légal, puisqu'il ne pouvait pas me payer les 1000 euros tout de suite, puisqu'il ne les avait pas. Donc moi, je mettais des intérêts, des 20%, 30%, je pouvais le faire. Et s'il ne me payait pas, j'avais l'autorité des Romaines qui pouvaient venir avec moi, les soldats romains, et pouvaient vendre sa maison. Donc, en plus d'être un traître, il était un voleur, il était un collecteur d'impôts, et Zachée était cela. Alors, seulement pour qu'on puisse avoir une idée, un collecteur d'impôts, sa parole n'avait aucune valeur. Dans un jugement, la parole d'un collecteur d'impôts ne valait rien. Il était le genre de personne que les gens passaient dans la rue, et quand ils passaient, les gens, soit ils passaient de l'autre côté du trottoir, soit lui crachaient à côté par le mépris qu'ils avaient pour ce genre de personne. Et Zachée le savait, ça. Zachée était un maudit. Il était riche, puissant, mais il était un marginal de la société. Et il souffrait. Il n'était pas content. Méprisé, seul. Et en plus de tout ça, il était petit. Comme s'il ne suffisait pas tout ça, il était de petite taille. Il avait un sens de culpabilité. Il cherchait comment pouvait-il vivre bien. Il n'était pas en paix. Il ne savait pas comment faire. Mais il avait entendu que son collègue, Matthieu, dans une ville un peu plus loin, à Capharnaüm, était parmi les suiveurs, les disciples de ce nouveau maître Jésus. Alors, quand il sait que Jésus rentre en ville, il faut qu'il rencontre Jésus. Il faut qu'il puisse lui parler, ou du moins le voir. Il ferme sa boutique et il va. Il court parce qu'il est curieux sur ce personnage de Jésus. Et il a plein de désirs, plein d'espérances, plein d'espoir pour cette rencontre avec Jésus. Mais quand il arrive près de Jésus, il a un problème. C'est quoi son problème ? Alors, lisons le verset, on peut lire à partir du verset 1, 19, Luc. « Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule. » C'est la foule qui l'empêchait de voir Jésus. Alors, imaginez une chose. Quand il y a un événement dans la ville, quand il y a, par exemple, des musiciens qui, au centre-ville, chantent, qui sont parmi les plus proches du centre ? Les enfants sont ceux qui arrivent à se faufiler parmi la foule et arriver jusque devant. Et pourtant, les enfants sont petits. Alors, c'est vrai que Zachée était petit. Il n'arrivait pas à voir, mais chaque fois qu'il essayait de se faufiler, les gens se serraient. Et les gens disent « tu passeras pas, tu verras pas ». La foule qui empêche Zachée de voir Jésus. La foule qui peut aussi nous empêcher parfois d'arriver auprès de Jésus. La foule qui peut être le travail, qui peut être la famille, qui peut être les voisins, qui peut être les soucis. Mais qu'est-ce qui m'empêche à moi de m'approcher de Jésus ? Zachée est frustré. Il y a une muraille humaine devant lui. Il entend un cri d'un aveugle qu'il connaît très bien, Bartimée, qui dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Il écoute ce cri qui est de plus en plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens qui disent, chut, tais-toi. Et il crie encore plus fort. Il ne voit pas, mais il écoute. On lit ça dans le chapitre 18 précédent. Et il écoute les paroles de Jésus qui dit, que veux-tu que je fasse pour toi ? Au verset 41 du chapitre 18, que veux-tu que je te fasse ? Ah, comme Zachée aurait aimé que Jésus lui dise cela. Il aurait exprimé tout son vouloir, toute sa peine, toute sa douleur. Il ne voit pas, il ne voit rien, mais tout d'un coup il entend que les gens louent à Dieu, que les gens glorifient à Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, rendit louange à Dieu. Et de nouveau, la masse humaine qui se met en marche, et Zachée est chassé de là. Que faire ? Désespéré, Zachée trace un plan, une stratégie. Il sait qu'en voyant où la foule se dirige, il sait qu'un peu plus loin, il y a un vieux figuier, un sycomore, qu'il pourra monter et qu'il pourra voir Jésus. Alors il y va. Et puisque personne ne le regarde, puisque la ville est vide, sans que personne le regarde, imaginons Zachée, petit, la quarantaine, cinquantaine, qui monte et qui se met sur l'arbre et qui attend. Et attend. Et petit à petit, la foule approche, approche, approche. Et Jésus passe. Et à un certain moment, Jésus s'arrête. Et quand il s'arrête, Jésus parle, on ne sait pas quoi. Et autour de Jésus, il y a des gens qui se mettent autour de Jésus. Et imaginez Zachée sur l'arbre, sur Jésus. Il n'ose même pas respirer. Quel privilège il a! Et tout d'un coup, Jésus regarde en haut, et toute la foule regarde en haut, il éclate une risée générale. Regardez qui est là-haut, dans une position pas très commode, Et tout le monde éclate de rire. Pauvre Zachée. Lui qui est venu là-bas pour rencontrer la paix, maintenant il va devenir la risée de Jéricho. Regardez qui est là-haut. Tous rient, sauf Jésus. Et remarquez la façon extraordinaire comme Jésus va sortir Zachée de ce pétrin, de ce problème. Il va se diriger d'abord par son prénom, il le connaît. Et puis il va lui dire, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. À combien de personnes pouvez-vous dire, en tout état de cause, aujourd'hui je vais manger chez toi? Monique, aujourd'hui je vais manger chez toi. Il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, en comptant, il y a 4 personnes à qui je pourrais dire sans aucun problème, aujourd'hui je vais manger chez toi, sans aucun problème. Il n'y a aucune qui est ici dans cette salle. C'est seulement pour dire que ce n'est pas n'importe qui qu'on peut se inviter, se faire inviter avec une certaine aisance. Seulement avec les très 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 grands amis, on peut se permettre de se auto-inviter. Et c'est ce que Jésus lui fait. Quand Jésus dit « Zachée, aujourd'hui je vais chez toi », il est en train de dire « Zachée, toi et moi, on est des copains, on est des amis, on est tellement proches qu'écoute, je me permets de me inviter chez toi. » À ce moment, les rires s'éteignent. Finalement, Zachée, c'est quelqu'un important, puisque un ami de quelqu'un important, il est aussi important. Zachée ne croit pas ce qu'il entend. Presque il tombe du sycomore, et quand il descend du sycomore, maintenant c'est la foule qui s'ouvre devant lui. La foule qui, avant se fermer, ouvre passage pour que Zachée, le méprisé, puisse passer. Le maudit, le méprisé, le solitaire, serait-il si important pour Jésus qu'il se invite chez lui? Et attention, quand Jésus s'invite, ce n'est pas seulement une bouche à nourrir, c'est 13 bouches au moins. Et c'était des hommes costauds, des pêcheurs. Il y avait un coup quand Jésus s'invitait. Il fallait vraiment que Zachée et Jésus soient de très très grands amis pour que Jésus puisse se permettre cela. Zachée va l'accueillir, ce sera un honneur énorme pour lui. Et ensemble, ils vont faire des plans pour le futur. Zachée décide de donner la moitié aux pauvres. Imaginez, la moitié de sa richesse. En fin de compte, les riches peuvent aussi se sauver. Rappelez-vous qu'au chapitre précédent, Luc 18, du 24 au 27, il y a l'histoire du jeune homme riche. Et à un certain moment, du 24 au 27, en le voyant, quand le jeune homme riche, il s'en va, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, alors, qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà un autre miracle que Jésus vient d'accomplir. Un riche qui est aussi sauvé. Peut-être un miracle plus grand que la guérison de l'aveugle Bartimée. Un riche, un pécheur, que ensemble, avec Jésus, font des plans pour aider les pauvres. Aujourd'hui, on pourrait dire, ils font des plans pour aider Adra. Je ne peux pas m'empêcher, en étant d'Adra, de dire, ensemble, on va aider, on va amoindrir la souffrance de ceux qui en ont besoin. Et si j'ai volé quelqu'un, je payerai 4 fois plus. Et Jésus peut lui dire, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui aussi est un fils d'Abraham. » La vie de Zachée a été transformée. Cette rencontre entre Jésus et Zachée a transformé à toujours la vie de Zachée. Pourquoi ? Parce que Jésus a donné de l'importance à Zachée, à quelqu'un qui était méprisable, à marginal, Jésus lui a donné l'importance. Jésus a changé la vie à toujours. Je demanderai maintenant au diacre de vous distribuer un petit papier pendant que je raconte une histoire qui s'est vérifiée il y a quelques années où une professeure, une prof primaire, un jour appelle chacun de ses enfants devant la classe et va leur dire des qualités que la prof apprécie dans chacun de ses élèves. Et après avoir parlé des qualités, la professeure va lui donner un ruban bleu avec des lettres en or, jaune, disant « tu es important ». Alors ça doit être un exercice de autopromotion, que ça fait bien à l'ego de l'enfant, de l'assurance, de la sécurité. Tu es important. Et pourquoi tu es si important ? Et à la fin, après que tout le monde ait reçu ce ruban bleu, la professeure va donner 3 rubans à chaque enfant. Et chacune de ces enfants devra donner à des personnes pour faire une chaîne pour multiplier cela. Un devoir pour la maison. Et une semaine plus tard, la professeure va demander les histoires, qu'est-ce qui s'est passé avec la distribution de ces rubans bleus. Tu es important. Il y a une histoire d'un garçon qui va vers un ami à lui, il va lui expliquer, il va lui dire « Tu es important, je t'aime bien, de temps en temps tu passes de temps à jouer avec moi quand tu viens chez moi, et je t'aime beaucoup, je crois que tu es important » et va lui donner le premier ruban. Va lui donner les 2 autres, il va lui expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Celui-là. On va lui expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour les autres. Alors, ce jeune homme est un jeune manager qui travaille dans une entreprise. Et lui, il pense à qui il doit donner. Et il décide d'aller à son patron, le chef de l'entreprise, et va lui dire, écoutez, je crois que vous êtes important. C'est grâce à votre vision, c'est grâce à votre force que cette entreprise existe, c'est une entreprise de plus de 100 personnes, et sans votre leadership, cette entreprise n'aurait jamais vu le jour. Vous êtes vraiment important pour cette communauté. Peut-être qu'il voulait dire avoir des bonnes relations avec son chef, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a donné le 2e ruban à son chef. Il n'est pas mon chef, mais il est mon collègue. Il va lui donner le dernier ruban pour qu'il fasse cela. Il va lui expliquer l'histoire. Le soir venu, le directeur de l'entreprise arrive chez lui et appelle son enfant, 15-16 ans, un teenager, un adolescent, et il va lui dire, « Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi, et je crois que je ne t'ai pas souvent dit, mais tu es important pour moi. Je veux que tu saches qu'après ta mère, tu es la personne la plus importante dans ce monde pour moi. » Il va lui donner le 3e et le dernier ruban. Et à ce moment-là, le jeune commence à pleurer. Et le papa lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps pour toi, je suis parfois fâché avec la pression du travail, je n'ai pas eu de l'amabilité, le savoir-faire, mais tu es important pour moi, mais pourquoi pleures-tu? Et le jeune lui dit, suis-je vraiment important pour toi, papa? Mais bien sûr que oui! Papa, j'avais décidé de me suicider demain parce que je pensais que je n'avais aucune importance pour personne. Ce ruban qui a sauvé la vie d'une personne. Vous êtes important, tu es important. Jésus a raconté de l'histoire de la pièce de l'argent, de la brebis, du fils prodigue. Il a dit à l'aveugle Bartimée, à la Samaritaine, aux enfants, aux disciples, même à Jude, il lui a dit, tu es important. Il a dit à la femme qui a été trouvée en adultère. Il a dit à Nicodème, à Marie-Madeleine. Il a dit aux lépreux, aux voleurs, à tous, à toi, à moi. Oui, vous êtes important. Vous qui avez des problèmes, vous qui n'avez pas de solution, vous qui pensez que vous n'avez pas de valeur, il vous dit ce matin, tu es important pour moi. Toi que tu te sens seul, que tu n'as pas d'amis, les vieux, les jeunes, les riches, les commerçants, les voleurs, les hommes, les pêcheurs, à tous, il vous dit, vous êtes important pour moi. J'ai avec moi deux billets de 20 euros. Je ne vais pas les donner, non. Je vais rester avec eux. Quel est le plus important de ces deux billets? Quel est le plus important? Qui est celui qui a le plus de valeur? Aucun? C'est pas, tous les deux. Et maintenant, quel des deux a le plus de valeur? Les deux?
J'ai ici un peu de terre. Je vais essayer de ne pas salir un peu trop.
Qui a le plus de valeur? Êtes-vous sûr? Alors désolé pour la personne qui va faire le nettoyage. Mais c'est important de comprendre bien. Qui a plus de valeur? Pourquoi? Parce que la valeur du billet ne dépend pas de l'état du billet où il se trouve. Et c'est la même chose avec nous. La valeur que nous avons dépend du sceau que la banque du ciel a mis à notre naissance. Et nous avons une valeur beaucoup plus que 20 euros, beaucoup plus que 5 000 euros, beaucoup plus que 5 millions d'euros. Nous avons une valeur incalculable devant Dieu. Et ce que Dieu nous dit ce matin, c'est que tu es important pour moi. N'importe pas l'état où tu te trouves, n'importe pas l'importance que les autres te donnent, tu es important pour moi. Je suis mort pour toi. Alors ce matin, Jésus nous dit, Jean, Daniel, Christine, Robert, Monique, Bernard, Marie, Anne, tu es important pour moi. Je suis mort pour toi. Descends vite, parce que je veux entrer chez toi. Je veux entrer dans ton cœur. Amen.